Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
De jeunes Roumains sous le choc. Contre toute attente, le candidat pro-russe Calin Georgescu est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, déjouant tous les pronostics. Inconnu du grand public, Calin Georgescu, 62 ans, ingénieur anti-OTAN, admirateur de Vladimir Poutine, a fait campagne sur TikTok où il se met en scène, comme le faisait le président russe, en kimono, à cheval, dans des mises en scène viriles. Ses positions pour un cessez-le-feu en Ukraine, aux conditions de la Russie, semblent avoir séduit un électorat roumain lassé par la guerre. Calin Georgescu s'en est félicité.
Le peuple roumain a crié pour la paix. Et il a crié très fort, extrêmement fort.
Le candidat pro-russe est également opposé à toute aide militaire et financière à l'Ukraine. Une position qui va à l'encontre du soutien européen à Kiev. Jusqu'ici épargnée, la Roumanie est rattrapée par la vague nationaliste qui a déjà touché les Pays-Bas, la Slovaquie et la Hongrie, déterminées à faire entendre leurs différences, notamment sur les conflits en cours en Ukraine et au Proche-Orient. Le premier ministre hongrois, qui achève 6 mois de présidence à la tête de l'Union européenne, se sent même poussé des ailes depuis l'élection de son ami Donald Trump.
Avec Donald Trump, le camp de la paix s'élargit. Et je suis toujours fier de pouvoir lutter aux côtés de ceux qui tentent de faire valoir la volonté du peuple contre l'élite au pouvoir.
Alors les dissensions condamnent-elles l'Union européenne à l'impuissance? Quelles valeurs les Européens partagent-ils encore?
Eh bien, nous allons voir ça tous ensemble dans un instant. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Max Herman Gastineau, bienvenue à vous. Vous êtes essayiste, spécialiste des relations internationales. Vous avez publié « L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation ». Selon vous, Max Herman Gastineau, les États ont approuvé les grands principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dites-vous, mais tout se joue maintenant dans la mise en œuvre concrète et il faut garder une certaine élasticité dans l'interprétation de nos valeurs. À vos côtés, Yves Bertoncini, bonsoir,
bonsoir.
Bienvenue à vous. Consultant et enseignant en affaires européennes, vous enseignez à l'ESCP Business School et au Corps des Mines Paris Tech. Et selon vous, Yves Bertoncini, l'Union européenne pourrait voir son unanimité vis-à-vis de l'Ukraine mise en péril par le blocage, à un moment ou à un autre, d'un pays qui pourrait être instrumentalisé, par exemple, par les États-Unis de Donald Trump ou par la Chine. Et puis, à vos côtés, Caroline de Camaret,
bonsoir.
Bienvenue à vous. Rédactrice en chef Europe à France 24, où vous présentez l'émission « Ici l'Europe ». Selon vous, la paix est une valeur qui a bien marché pour unifier l'Europe, mais nous nous sommes peut-être un peu trop reposés dessus, puisqu'il s'agit désormais de soutenir une guerre en Ukraine depuis 2022, et les 27 sur ce sujet-là ne sont plus forcément unanimes. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Marion, vous avez un chiffre du jour.
Oui, 649 kilomètres, c'est la longueur de la frontière qui sépare la Roumanie de l'Ukraine. C'est donc le pays de l'Union européenne qui a la plus longue zone de contact avec ce pays. Et à ce titre, c'est donc la Roumanie, un pays stratégique militairement. 5000 soldats de l'OTAN sont d'ailleurs postés sur place. Alors, question, Caroline de Camaret, si la Roumanie, traditionnellement europhile, élisait le 8 décembre ce président pro-russe, est-ce que ça reflèterait l'érosion du soutien à l'Ukraine en Europe?
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'attendait pas. Ça a été une immense surprise, tout de même, cette élection, enfin, ce premier tour, en l'occurrence, pour Calin Georgescu. Donc, c'est vrai qu'il a surfé. Et donc, déjà, on voit l'ingérence très nette sur la vague TikTok, sur ce pays de 19 millions d'habitants. Il y avait 7 millions qui étaient sur TikTok et qui ont suivi, d'ailleurs, ces campagnes qui ont été relayées par les bots pro-russes. Donc, il a déjà bénéficié d'un petit coup de pouce de la Russie à ce titre. Alors c'est vrai qu'il a bénéficié aussi...
Quand vous dites les bots, vous dites les robots en fait.
Les robots, tous ceux qui amplifient sur ces réseaux sociaux. TikTok, c'est pas un réseau comme un autre, c'est effectivement on le sait, chinois. Et en l'occurrence, cette surprise, on aurait dû s'y attendre. Quand on voit à quel point finalement l'accès à la presse libre et non biaisée bien pose problème, la Roumanie, c'est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. européenne. C'est un pays où il y a eu beaucoup de manifs anticorruption. Il y a eu une défiance vis-à-vis de l'actuel président, Ioannis, qui avait des problèmes de lui-même de frais, hein, de frais fastidieux pour ses voyages. Et donc, on le voit s'installer. Et effectivement, ça change un peu la donne. Il y a effectivement le 8, vous le disiez, un deuxième tour. Mais entre-temps, il y a des élections législatives aussi.
Et c'est un pays donc limitrophe de l'Ukraine, Marion le disait à l'instant. Max Herman-Gastineau, est-ce que c'est vrai que ce résultat inattendu illustre, selon vous, une forme de lassitude dans le soutien à l'Ukraine contre la Russie ?
Alors, il peut y avoir une forme de lassitude qu'on a déjà observée aussi en Moldavie et en Géorgie, donc pas dans des pays membres de l'Union européenne, mais où on a vu un discours progresser selon lequel, attention, si on continue d'alimenter un conflit avec l'Ukraine, on peut ouvrir un deuxième front dont nous serions les premières victimes. C'est notamment un discours qu'on a entendu en Géorgie. Il faut aussi comprendre que la guerre en Ukraine, ce n'est pas simplement une tension géopolitique qui est accentuée du fait de l'impérialisme russe, c'est aussi des conséquences économiques très concrètes. Moi, je trouve toujours un petit peu paresseux l'explication selon laquelle les électeurs se refont manipuler par des relais russes, il existe, hein, des ingérences russes, mais il y a des conséquences économiques très concrètes. Il y a d'abord aussi une crise agricole. On a parlé en début d'année d'une crise agricole aux Pays-Bas, en Allemagne, en France. Les agriculteurs roumains se sont aussi levés contre un certain nombre de normes européennes qu'ils jugent attentatoires à leurs intérêts et à la poursuite de la production agricole européenne. Et puis, vous avez aussi les coûts énergétiques et une inflation des prix énergétiques qui est aussi, en partie, la conséquence de la guerre en Ukraine. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête pour expliquer pourquoi un candidat surprise l'a, en effet, emporté au premier tour.
Yves Bertoncini, en tout cas, les Européens ne parlent plus d'une seule voix sur l'Ukraine et sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Russie ?
Non, mais depuis le début, il y a eu des sensibilités divergentes. Il y a quand même eu une réaction émotionnelle de soutien à l'Ukraine et de fermeté vis-à-vis de l'invasion russe.
À l'époque.
Absolument. Il y a quand même eu depuis lors un soutien réaffirmé à chaque fois, des sanctions face à la Russie, 14 trains de sanctions que M. Orban n'a par exemple jamais bloqué, hein, même si parfois il a objecté. Mais il est vrai que maintenant l'usure s'installe. Il faut quand même entendre des pays qui sont sinon en première ligne, en tout cas aux premières loges, et qui subissent des conséquences un peu plus directes.
Ils n'ont pas tous la même réaction, pardon, ces pays, justement, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une forme de lassitude en Roumanie, mais que du côté des Pays-Baltes ou de la Pologne, il y a une dimension beaucoup plus belliciste à l'endroit de la Russie, justement. Une
mémoire historique qui est peut-être aussi différente,
ça, hein,
parce que les Pays-Baltes ont quand même été absorbés par l'Union des républiques socialistes soviétiques. La Pologne a été rayée de la carte par un partage germano-russe, donc ça crée quand même une mémoire reptilienne, je dirais, un tout petit peu plus alerte. Quant à la Roumanie, écoutez, la vertu des élections en deux tours, c'est que ça permet, sur la base de ce résultat surprise, de reposer les termes du débat. Et je prends mon risque. Je ne suis pas certain que ce candidat sera élu au second tour, compte tenu de l'europhilie présumée du peuple roumain.
Caroline de Camaret.
Du machisme du pays, il est face à une femme, il a toutes ses chances d'être élu au second tour.
Ça montre, lui parle de la paix. Caline Georgescu, ça montre quand même qu'il y a différentes acceptions du mot paix aujourd'hui en Europe. Chacun veut la paix, mais d'une façon différente, en clair.
Oui, alors, c'est-à-dire que c'est vrai que Yves a raison de souligner qu'il y a eu un Viktor Orban, qu'on dit plus proche du Kremlin, qui a démarré sa présidence tournante pour 6 mois de l'Union européenne en allant voir à la fois l'Ukraine, ça c'était vraiment un beau geste de sa part, parce qu'il n'est pas très, très copain avec les Ukrainiens, mais immédiatement après Vladimir
Poutine,
c'était
ça, et sa présidence tournante de l'Europe.
Xi Jinping, sans prévenir personne. Et là, il continue à vouloir jouer à un jeu un petit peu ambigu aussi via Donald Trump sans prévenir personne. Mais en effet, il n'a jamais réussi à bloquer. Alors maintenant, est-ce qu'il va réussir à bloquer davantage ? C'est vraiment la question qui se pose dans cet environnement où on voit que, j'insiste quand même sur la désinformation, la Géorgie a été la cible d'une désinformation très massive, la Moldavie aussi qui a failli perdre son progrès vers l'Union européenne. Et Maia Sandu a dénoncé une attaque sans répit sur ces institutions. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'il va se faire de nouveaux alliés, Viktor Orban, dans le clivage européen ? Est-ce que, par exemple, une Giorgia Meloni serait capable de le rejoindre dans des doutes émis vis-à-vis de l'Ukraine ? Est-ce que, alors Robert Fico, la Slovaquie, est déjà dans son camp un peu. Donc, est-ce qu'il va avoir une grosse...
On va donner la parole, justement, à Caroline de Camaret, à un nouvel ami de Viktor Orban. Vous évoquez tous les uns les autres, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui apparaît un peu comme le parrain de ces mouvements nationalistes européens. Mais il a un bon ami sur le point de revenir au pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique, Marion.
Oui, cet ami, il s'appelle Donald Trump, puisque Viktor Orban est un grand admirateur de Donald Trump et il bénéficie en retour du soutien du président élu des États-Unis.
Viktor Orban, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person, smart. Prime Minister of Hungary. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president.
They were afraid of him. Viktor Orbán said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president.
Alors Max Erwan Gastineau, on entend hein, le soutien de Donald Trump. Est-ce qu'il va donner plus de poids à Viktor Orbán sur la scène européenne ?
Ouais, Viktor Orbán est quand même relativement isolé, même si en effet il y a des alliés qui commencent à se manifester au fur et à mesure des élections. En fait, je pense que la connivence est plutôt idéologique entre Viktor Orbán et Donald Trump, puisqu'au fond c'est une vision des relations internationales qui repose avant tout sur des nations. C'est l'idée de dire au fond, le monde est constitué de nations qui ont des intérêts nationaux et il faut mettre les valeurs au second rang. Nous sommes ici pour défendre des intérêts économiques, des intérêts énergétiques. La Hongrie a fait valoir plus d'une fois qu'elle n'avait pas d'accès à la mer et que donc pour résoudre son problème d'accès à l'énergie, elle devait continuer d'être alimentée quelque part par le gaz russe. Vous avez ce même discours en Slovaquie où ce sont les prix de l'énergie qui ont avant tout guidé le retour de Robert Fico au pouvoir. Donc c'est plutôt... Viktor Orbán, lorsqu'il a pris en effet la présidence de l'Union européenne, hein, la présidence tournante de l'Union européenne, pourquoi il est allé voir Xi Jinping et Vladimir Poutine ? Parce qu'il considère que l'Europe doit se désenclaver d'un camp occidental qui alimente le conflit, c'est sa vision, qui alimente le conflit avec la Russie, alors que nous vivons dans un monde multipolaire, désoccidentalisé, et qu'il faut que l'Europe s'ouvre à des régimes...
– Aussi des prix très bas pour ses hydrocarbures et son gaz. –
Mais c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles il continue de maintenir le lien avec la Russie, c'est parce qu'il estime que c'est dans l'intérêt de l'économie hongroise que de bénéficier de prix énergétiques attractifs. C'est tout à fait dans l'ordre des choses qu'un chef d'État cherche à maintenir des prix énergétiques assez bas pour ses entreprises et pour sa population. –
Pas quand il y a des sanctions européennes contre un régime.
– Il a voté toutes les sanctions, par contre, quelle est l'issue que l'on donne au conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Les États-Unis pose sur la table une issue diplomatique. Que pense l'Europe de ce conflit, à part aujourd'hui le prolonger ? Il y a peut-être temps d'envisager une autre issue que l'alimentation d'un conflit qui dure maintenant depuis 3 ans et qui a des effets économiques importants au niveau européen.
Justement, Yves Bertoncini, pourquoi est-ce que Viktor Orbán, en fait, n'a jamais bloqué les sanctions à l'endroit de la Russie ? Il met en avant une autre vision de l'Europe, peut-être d'autres valeurs qu'un certain nombre de pays de l'Europe occidentale. Et en même temps, il marchande, en fait, à chaque fois. Est-ce que c'est pour marchander que finalement, il ne bloque pas ce qu'il pourrait bloquer, de fait ?
Viktor Orbán, Trump lui a fait beaucoup d'honneur, hein, en le mettant comme ça en mondiovision. Comme une référence de son soutien. En Europe, c'est même quelqu'un qui dirige un État-nation important, mais qui est un État-nation de second plan. C'est quelqu'un qui a des positions tellement périphériques qu'on doit faire avec lui, puisqu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent à l'unanimité. Il sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Il a aujourd'hui une assise politique renforcée. Il a fait même croire qu'il avait créé un groupe au Parlement européen, un nouveau groupe, alors que c'était le groupe qui avait Identité et démocratie, qu'il a rejoint et puis qui s'est plus ou moins recomposé. Donc il a même un talent de communicant. Il est porté, ça c'est ce qu'a dit mon camarade, par une vague de protection du mode de vie européen et même occidental traditionnel. Ça le rapproche de Trump avec tous les sujets vis-à-vis des migrants, notamment les femmes, etc. Ce verbiage que Mme Meloni, à sa façon, reprend aussi de manière un peu plus soft. Mais enfin, il ne faut pas quand même, je dirais, surévaluer l'importance politique et géopolitique de Viktor Orbán.
Caroline Camara, si demain Trump doit appeler quelqu'un en Europe, ce sera Orbán plutôt que la France ou l'Allemagne ?
Alors, notons quand même qu'il y a un gros différent entre Trump et Orbán. C'est la Chine. Hein. Trump va déclencher une guerre commerciale avec la Chine. Orbán compte beaucoup sur les Chinois pour le renflouer. Donc Orbán, il n'est pas en passe de rompre avec la Chine ni de vouloir surtaxer les Chinois. Ça, quand même, c'est une différence. Et d'autre part, on disait, c'est un État qui est relativement modeste en Europe. Peut-être que... aussi un Donald Trump est attaché à des États de plus grande amplitude. Peut-être qu'une Giorgia Meloni, l'Italie, qui a beaucoup d'exportations, qui est une puissance industrielle, ce qui intéresse toujours Donald Trump, est en mesure de plutôt murmurer à l'oreille de Donald Trump qu'un Viktor Orbán qui est exclu du clan. Et puis on voit bien qu'elle, elle est en train de s'intégrer beaucoup dans la nouvelle commission. Elle a casé son vice-président dans cette nouvelle commission. Elle est beaucoup plus appréciée du club. Et d'ailleurs, la question de savoir si elle est beaucoup plus appréciée du club parce qu'elle a soutenu l'Ukraine et si elle va continuer à le soutenir dans les mêmes proportions ou bien si elle va, au contraire, avoir tendance à s'aligner sur des positions dites plus proches de celles d'un Donald Trump et plus proches de l'idée qu'il faut une paix coûte que coûte rapide, Et à quel prix? Parce que c'est ça la question.
Maxime Gastineau, est-ce que Orban aussi, ou Mélanie d'ailleurs, ne profite pas du fait que les deux principaux moteurs de la construction européenne, la France et l'Allemagne, ne sont pas en très bon état, voire quasiment en panne politique?
Oui, c'est l'évidence. La France est aujourd'hui assez affaiblie. L'Allemagne aussi, son modèle économique est attaqué du fait, encore une fois, des hausses des prix de l'énergie. Bon, Mélanie a quand même une vision plutôt occidentaliste, disons, en soutien de l'Ukraine. Viktor Orban, en effet, c'est sa différence avec les États-Unis. Mais si vous étudiez la position de Viktor Orban sur les questions européennes, il y a plutôt l'idée d'une Europe indépendante. Lorsqu'Emmanuel Macron cherche un relais sur les questions notamment d'Europe de la défense, il a souvent trouvé l'oreille de Viktor Orban qui a appuyé le contingent français au Sahel. Et lorsqu'Emmanuel Macron revenait de Chine, souvenez-vous, expliquant que les Européens devaient avoir leur propre agenda géostratégique sur la question taïwanaise, c'était pour appeler l'Europe à se détacher des Américains, parce que nous envisagions déjà à l'époque la perspective d'un retour de Donald Trump au pouvoir. Donc, Viktor Orban a noué des liens assez forts avec la Chine. Pour autant, il estime que justement l'Europe doit jouer sa propre carte, se rapprocher des Chinois quand ça va dans le sens de l'intérêt des Européens, se rapprocher des Américains. Mais si aujourd'hui, et je termine là-dessus, s'il estime que Donald Trump aujourd'hui va dans le sens des Européens, c'est parce que Donald Trump propose une issue diplomatique à la guerre russo-ukrainienne à laquelle commence à se rallier Zelensky.
On verra laquelle, hein, parce que ça devait être réglé en 24 heures. Laissons-le prendre ses fonctions et nous dire ce qu'il pense faire en 24 heures.
Mais c'est l'option que met sur la table Donald Trump.
Moi, je ne l'ai pas vu.
Justement, il y a la guerre commerciale.
Présent dans les termes, évidemment.
Oui, d'accord.
Il y a la guerre commerciale avec la Chine, il y a la vraie guerre en Ukraine, et puis il y a une autre guerre sur laquelle les fissures, voire les fractures européennes apparaissent, c'est la guerre au Proche-Orient. Anna, le Premier ministre hongrois, justement, Viktor Orban, a pris position en faveur de Benjamin Netanyahou après la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre.
Oui, vous l'avez dit jeudi dernier, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien et de son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Et indigné par cette décision, Viktor Orban a, dès le lendemain, invité Netanyahou en Hongrie en lui garantissant que le jugement de la CPI n'aurait pas d'effet sur son sol. Alors c'est vrai que sur cette question, les 27 sont très divisés, comme la Hongrie, on vient de le dire, la République tchèque et l'Autriche, on va le voir sur la carte, qui dénoncent ce mandat d'arrêt. La France et l'Allemagne, elles, ont pris acte de la décision de la Cour pénale. Et l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Union européenne, par la voix de son chef de la diplomatie, Josep Borrell, eux se disent prêts à les faire appliquer. Mais plus globalement, depuis le début du conflit au Proche-Orient, eh bien, les pays de l'Union européenne ont des positions très divergentes. Il y a d'un côté les pro-palestiniens, l'Espagne et l'Irlande, qui ont d'ailleurs reconnu l'État de Palestine au mois de mai. Il y a les pro-israéliens dans le bloc Hongrie, Autriche et République tchèque. Et puis, il y a cette sorte d'entre-deux avec l'Allemagne, la France et les pays nordiques. Yves Bertoncini, est-ce qu'une position commune des 27 sur le Proche-Orient, c'est quelque chose de possible ou c'est mission impossible?
D'abord, Josep Borrell porte la voix des Européens. Il a dit ce qu'il en pensait.
Mais et chacun dans
il va bientôt être remplacé par Kaya Kallas. Et je n'ai pas de doute qu'elle dise exactement la même chose que Josep Borrell, à savoir qu'il y a un tribunal qui a délivré un mandat d'arrêt et que voilà, il faut exécuter.
C'est dans quelques jours, hein, c'est le 1er décembre, qu'il sera remplacé par Kaya Kallas, qui est estonienne.
Et puis sur ce qui se passe d'horrible là, entre Israël, Gaza, le Liban et potentiellement avec l'Iran, les Européens sont quand même assez alignés. Hein, si on veut parler globalement, généralement, sur l'idée qu'il faut désescalader, il faut respecter le droit international, libérer les otages, il y a quand même des convergences assez fortes, et évidemment, garantir le droit d'Israël à l'existence et même à se défendre. Ensuite, on peut rentrer dans les détails, effectivement, et vous voyez bien qu'il y a des différences de sensibilité. Et s'agissant de
délivrer à l'encontre de Benjamin Netanyahu, c'est pas des détails, c'est une décision, les mandats d'arrêt délivrés à l'endroit de Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la Défense, c'est quand même un sujet de fond sur lequel les Européens se déchirent.
Votre carte le montre bien. Mais se déchirent, c'est un très grand mot. Il y a quand même une assez grande majorité des Européens qui sont favorables à ça. Et ils ne vont pas se déchirer.
Tous les pays membres de l'Union européenne vont mettre en œuvre ce mandat d'arrêt.
Ben écoutez, on verra si M. Netanyahou, d'abord, à un moment, se soumet au suffrage universel de son peuple, hein, et sinon à la justice de son pays. Et puis ensuite, s'il ose se déplacer dans l'un des pays hein, qui sont marqués en bleu. Là, voilà. Et peut-être, s'il a du temps, parce que c'est pareil, c'est beaucoup d'honneur fait à M. Orban, peut-être, s'il a du temps, il ira à Budapest, je ne suis pas certain. Voilà, on voit ce que fait M. Poutine. M. Poutine, bah, écoutez, il se déplace moins qu'avant, il ne prend pas le risque.
Oui, mais Viktor Orban est quand même allé le voir à Moscou en juillet.
C'était pas l'inverse. c'est pas l'inverse. Et Viktor Orban, écoutez, il a son moment de gloire. Je veux pas dévaluer l'importance politique de Viktor Orban. Il y a une poussée des idées qu'il incarne et il faut tenir compte de cette poussée et qui dépasse la Hongrie. Mais il ne faut pas quand même considérer que Viktor Orban est le maître de l'Europe ces dernières années et pour les prochaines.
On va avancer parce que si on constate en tout cas, on va dire, un certain nombre de différences, de dissonances, voire de divisions sur des conflits en cours entre les Européens, donc on finirait presque par oublier qu'il y a bientôt un quart de siècle, les mêmes Européens ont pourtant inscrit dans le marbre d'un document à portée historique les valeurs qu'ils sont supposés partager. Il s'agit de la Charte des droits fondamentaux et c'est notre archive du jour.
Premier acte de ce sommet, la signature de la Charte des droits fondamentaux. À terme, donc, tous les Européens pourraient avoir les mêmes droits. Pour le moment, cette charte n'a aucune valeur contraignante. La Grande-Bretagne a en effet refusé qu'elle soit inscrite dans un traité.
Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice, c'est désormais la devise de tous les Européens des 15 pays de l'Union. Dans cette charte, des principes ont été tout de suite adoptés. L'interdiction de la peine de mort, de l'esclavage, du clonage reproductif des êtres humains. D'autres principes acceptés depuis ont été source de conflits. Le droit de grève, le droit de former des syndicats ont été arrachés de haute lutte. Les parlementaires libéraux britanniques ne voulaient pas en entendre parler. Même chose pour le droit d'asile. Cette fois, c'est l'Espagne confrontée au terrorisme de l'ETA qui était contre.
Alors on le voit, il y a malgré tout une base commune des valeurs européennes. On a vu la liste dignité, liberté, égalité. Ça ne suffit pas, Caroline de Camaret, à atteindre des positions communes en Europe ?
Oui, alors c'est une base déjà qui est très appréciée des Européens. Deux tiers des Européens ont connaissance de cette charte des droits fondamentaux. Mais on a compris que dès le début, finalement, de cette charte, dès le fameux sommet de Nice de 2000, il y a eu malentendu sur ce qu'elle voulait, quelles étaient les valeurs de l'Union européenne, ce qu'elle devait contenir. Les Polonais voulaient ajouter, par exemple, les valeurs chrétiennes de l'Union européenne. Après, aujourd'hui, on se demande si on va y ajouter l'IVG. Donc, c'est une véritable bataille qui reflète, finalement, la polarisation des opinions européennes et la bataille pour les valeurs et lesquelles, bien sûr, qui est en train de se jouer. Alors, moi, ce qui me frappe, quand même, c'est que l'Union européenne, quand on parle de valeurs, elle a été longtemps citée comme un modèle de paix. On a réussi à faire une paix perpétuelle, finalement, à travers cette Union européenne.
Et à l'intérieur des frontières de l'Union européenne,
voilà,
c'est le cas.
Et aujourd'hui, on est en train de dire, les citoyens, ils sont allés voter ou pas voter d'ailleurs aux dernières élections européennes, on leur dit, mais la guerre à vos frontières, il faut qu'on la fasse. Voilà, donc ça déjà, on est en train de bouger sur nos bases.
Max Erwan Gastineau, ce corpus de valeurs communes, il est interprété différemment selon où on se place, et notamment à l'Est ou à l'Ouest de l'Europe ?
De fait, puisque vous avez affaire à des grandes valeurs sans définition précise. L'article 2, par exemple, de la Charte des droits fondamentaux précise que toute personne a le droit à la vie. Bon, cette mention peut susciter aussi, déclencher des interprétations plus conservatrices, comme on l'a vu en Pologne,
sur l'avortement, par exemple,
visant à limiter le droit à l'avortement. Vous avez à l'article 3 des mentions relatives à l'interdiction de marchander le corps humain. On pourrait dire que ça interdit de fait la GPA en Europe. Par exemple, au Portugal, la GPA est autorisée. Vous avez donc une liberté quand même d'appréciation de ces valeurs. Ce qui est important, c'est d'avoir une sorte de socle commun. Mais c'est là où on en vient, au fond, à quel est le sens et la perspective de la construction européenne. Voulons-nous un espace uniformisé, avec des valeurs uniques auxquelles Bruxelles tient et cherche à faire respecter au nom d'une forme de supranationalisme sociétal. La liberté d'expression qui est très encadrée en France, ou voulons-nous au contraire accepter une certaine diversité infra-européenne ? Je mentionnerai simplement juste deux articles du traité de l'Union européenne qui s'opposent et qui opposent, pour aller simple, qui oppose l'Europe de Viktor Orban d'un côté et peut-être la France d'Emmanuel Macron, par exemple, de l'autre. Vous avez l'article 1 qui dit que le projet européen vise l'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, et un article 4 qui dit que l'Union européenne respecte les identités nationales. Et donc vous avez en effet un conflit à l'intérieur même du projet européen entre une vision plus supranationale et uniformisatrice et une vision plus inter-nationale.
30 secondes de conclusion, Yves Bertoncini. Est-ce que nous, Européens, nous avons encore un corpus de valeurs communes donc, qui nous unifie, ou est-ce que la diversité a pris le pas ?
Je crois qu'il suffit de comparer avec d'autres pans de l'humanité sur d'autres continents. Il y a d'ailleurs un attrait pour les valeurs européennes, mais nous sommes unis dans la diversité.
C'est qu'il y a des candidats qui veulent rejoindre l'Union européenne.
Et puis aussi des migrants qui veulent nous rejoindre. Et la charte est une belle lecture, et si franchement on pouvait appliquer tous ces principes, ça ne serait pas si mal, mais c'est vrai qu'il y a des conflits en termes de subsidiarité des États. Il n'y a pas de droit européen à l'avortement, et donc il y a encore quelques pays qui l'autorisent. Il faut respecter leur souveraineté nationale, je mesure que quand même...
Qu'ils ne l'autorisent pas ou qu'ils le restreignent de façon... Voilà.
Et qu'ils ne l'autorisent pas, pardon. Mm-hmm. Et de plus en plus, il y a un mouvement quand même d'uniformisation, même si quelques-uns irréductibles résistent encore.
Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.